Figaro Radio. Le Buzz TV. Sarah Lecoeuvre et Mathilde Seffer.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mathilde Seffer. Bonjour Mathilde.
Bonjour Sarah.
Notre invitée du jour est une psychologue experte du cœur et elle revient dans l'émission Doudou de l'hiver et du début de printemps aussi. Bonjour Estelle Dossin.
Bonjour Sarah, bonjour Mathilde.
Bonjour. Mariée au premier regard, saison 8, ça démarre sur M6. Vous êtes l'une des coachs, hein, des candidats qui trouvent l'amour, enfin on l'espère. Vous êtes présente. Ça fait déjà depuis la saison 3, on a
oui,
compté.
Oui, absolument.
C'est donc votre sixième. Comment vous qualifieriez cette saison pour démarrer ?
La saison 8 ?
Ouais.
Montagne russe ?
Ah, bon ? Il va y avoir du rebondissement.
Il y aura du rebondissement, c'est l'ascenseur émotionnel. Ça l'a été tellement pour nous, les experts. Je peux vous dire un truc, je pense que ça va l'être aussi pour vous qui l'êtes derrière vos écrans.
Ouais. Et alors, sans nous spoiler, est-ce qu'il y aura plus de couples qui vont durer que l'an passé ?
Mais Mathilde, si je réponds, je spoil.
Oui, je sais, mais j'essaie d'avoir les
infos. Non, je ne peux pas répondre. Il faut regarder jusqu'au bout.
Non, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était pas folichon côté couple. Là, il n'y a plus aucun couple. Je crois que Pedro et Jefferson se sont séparés.
Récemment.
Récemment. Comment vous l'expliquez ? C'était une mauvaise moisson l'an passé ?
Non, alors je pense qu'il n'y a jamais de mauvaise moisson. En fait, réussir l'expérience mariée au premier regard, c'est pas... alors évidemment, on adorerait qu'ils restent mariés toute leur vie ensemble, mais je pense que toutes ces personnes qui s'inscrivent veulent sortir de leur zone de confort, veulent modifier un schéma de répétition, et donc sont vraiment en difficulté par rapport à eux-mêmes et par rapport à la rencontre et la construction de l'amour, et donc ils font appel à un tiers. Nous, dans l'expérience, enfin moi en tout cas, je considère que réussir son expérience mariée au premier regard, c'est déjà arriver à tenir toute cette expérience, à se dire oui, à se redire oui, et après il leur appartient de pouvoir continuer le couple. Bon, il y en a beaucoup qui se disent oui quand même au bilan.
Oui. Et qui restent quelques mois.
Et qui restent quelques mois ensemble. Après, effectivement, ça s'essouffle un petit peu pour certains. D'autres, c'est plus ou moins long. Mais c'est pas une... il n'y a jamais de mauvaise moisson.
Et puis c'est la vie aussi. Et puis il y a un bilan qui est satisfaisant, on en parlera dans l'interview du Buzz TV, juste après les news médias de Mathilde Seffer. Mathilde, on commence ces infos avec la réaction de Michel Drucker après l'audition de Cyril Hanouna à l'Assemblée nationale.
Oui, tout à fait. Alors, Cyril Hanouna a été interrogé vendredi par les parlementaires dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'attribution des fréquences des 15 chaînes de la TNT. Alors, cet interrogatoire a fait réagir les personnalités télé, dont Michel Drucker, qui s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. L'animateur de Vivement Dimanche a affirmé que, bien que Hanouna soit clivant, il est l'une des grandes révélations de la télévision des dernières années. Drucker avait déjà apporté son soutien au trublion de C8 après la diffusion de Complément d'enquête sur France 2 en déclarant, je cite, « C'est un showman qui va le plus loin possible. On ne peut pas faire 3 heures de direct chaque soir depuis 12 ans sans qu'il n'y ait de balles perdues. »
Vous, Estelle, vous avez un avis sur Cyril Hanouna ? Vous êtes cliente de TPMP. Ils débriefent souvent, mariés au premier regard, sur leur plateau.
Oui, je sais, ils en parlent souvent. Alors, je n'ai pas le plaisir de le connaître personnellement. Je sais que, d'un point de vue téléspectatrice, il m'arrive de regarder son émission. Effectivement, c'est un grand professionnel. Il réunit des millions de téléspectateurs. C'est une émission de divertissement. Et là où je suis d'accord avec Michel Drucker, c'est qu'effectivement, compte tenu du nombre d'années que son émission existe, c'est impossible qu'il n'y ait pas par moment des ratés, des dérapages. Oui. Tout le monde est exposé à un moment ou à un autre à quelque chose d'un peu moins bien. Après, est-ce que ça doit faire oublier tout le reste ? Je ne suis pas sûre.
Oui. Plutôt cliente. Alors Mathilde, on poursuit ses infos avec Eve Gilles, qui est notre Miss France, qui a défendu ses missions face à Alexandra Lamy.
Miss France 2024 était invitée sur le plateau du 20h30 le dimanche de Laurent Delahousse, aux côtés de la comédienne Dinde et une fille. Et alors Alexandra Lamy a expliqué n'avoir jamais rêvé vraiment de participer au concours, même si elle adore, je cite, regarder et voir toutes ces belles filles. Bon, alors cette déclaration n'a pas trop plu à Miss France, ni une ni deux. Eve Gilles lui a rappelé que son rôle ne se limitait pas à être jolie. Je cite, si on ne voit pas l'engagement qu'elle a, on peut se dire que c'est juste une jolie fille qui sourit un peu partout, alors qu'en fait, Miss France nous permet vraiment d'avoir des engagements sur des sujets forts et d'avoir une voix. FG l'a poursuivi ensuite en affirmant qu'en 3 mois de règne, elle avait déjà pu changer la vie de nombreuses personnes.
Miss France, c'est un programme qui vous parle, que vous regardez chaque année ?
Mais bien sûr, c'est une institution, je trouve qu'il y a quelque chose de très symbolique. C'est un système qui a été beaucoup décrié et qui, depuis quelques années, a quand même complètement changé. Effectivement, la beauté est un prétexte à porter des messages beaucoup plus intéressants. L'ensemble des jeunes femmes qui sont sélectionnées ont toute une fibre féministe. Mmh. Elles sont très représentatives de la population des jeunes femmes d'aujourd'hui, par leur âge, mais aussi par leurs milieux sociaux très différents. Mmh. Je trouve notre Miss France absolument parfaite, elle est magnifique et aussi elle est très intelligente, elle s'exprime très bien, elle est porteuse de plein de messages.
Oui, Gabrielle Attal lui a donné une mission sur les mathématiques, puisqu'elle les étudie.
Oui, elle est en fac de maths, enfin elle était en fac de maths, je pense qu'elle va mettre les choses.
Oui, là, c'est
mais bon, je ne peux être que fan, et pour son engagement féministe, et pour son engagement sur l'enseignement, et puis aussi team cheveux courts. Quoi.
Ouais, j'allais vous dire, vous portez la même coiffure.
Oui, je trouvais, mais dès que je l'ai vue, j'ai fait « waouh !»
C'était votre candidate.
Oui, oui.
Et les critiques qu'elle se prend, est-ce que vous avez déjà été victime de ces... Vous vous êtes reconnue quelque part dans les critiques qu'elle reçoit? Elle a été...
Alors, il y a toujours des gens qui vont critiquer le physique des personnes qui sont un peu en vue. Moi, ça ne m'atteint pas. Je trouvais ça déplorable qu'on s'attaque à son physique. Parce qu'effectivement, comme elle le dit, ça a fait oublier tous ses discours. Et ça, c'est, je trouve ça déplorable. Mais bon, les haters sont là pour hater. Donc voilà.
Oui, c'est leur job.
C'est leur job. Il faut les laisser faire.
On termine, Mathilde, avec le chiffre du jour. Le 8 aujourd'hui.
Oui. Et alors, on va parler un peu d'amour. C'est 8 mois, donc c'est la durée de la nouvelle romance de Stéphane Plaza.
Ah bah voilà.
Elle a été révélée ce week-end dans TPMP par Tony Lecors, donc un ami de l'animateur. Cela ferait depuis cet été que l'homme de télé entretiendrait une relation avec une femme haut de gamme et indépendante, comme le mentionne l'ami en question. Toujours selon lui, le couple serait obligé de se cacher et cela ferait suite en fait aux accusations de violence conjugale portées par d'anciennes compagnes à l'encontre de Stéphane Plaza. En attendant, l'homme a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un procès cet été.
Puisqu'il est accusé de violence conjugale. Et d'ailleurs, tous ces mouvements MeToo, pour vous, c'est quelque chose de bien, c'est un mouvement nécessaire. Mais moi, je me demande simplement si... Parfois, on peut émettre des réserves, parce que ça peut avoir des conséquences sur le couple aussi en lui-même, la formation d'un couple même, la drague, tout simplement. Les hommes disent aujourd'hui, on n'ose plus draguer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je pense qu'il est essentiel et qu'il est grand temps que les femmes posent des limites. On est dans une société patriarcale, on fait partie d'une culture latine, notre rôle a été cantonné à peu de choses pendant très longtemps. Quand vous pensez que le droit à l'acquisition à la propriété personnelle n'existe que depuis 1976, c'était hier, vous voyez. Donc je pense effectivement que là, l'union fait la force, il y a un mouvement qui jaillit, et comme n'importe quel élément qui est retenu pendant très longtemps comme ça, vous levez un peu le couvert, paf, ça explose. Donc effectivement, une explosion, il y a des pots cassés autour, mais c'est nécessaire.
Les hommes ne vous le disent pas quand vous les recevez en cabinet, on ne sait plus comment s'y prendre avec les femmes?
Non, on n'en est pas là, en tout cas je n'ai pas eu à le constater. En revanche, ce qui est important, c'est qu'ils sont peut-être effectivement plus prudents, et ça c'est très bien.
Ça c'est une bonne chose.
La question du consentement revient, et ils sont peut-être plus autocritiques avec leur façon d'agir, et ils sont plus responsables. Et c'est très bien, parce que je pense qu'essentiellement, le mouvement MeToo n'est pas là pour punir, il est là pour dénoncer des choses qui sont illégales, et il est surtout là pour que tout le monde soit amené à se responsabiliser. Je ne crois pas au féminisme qui clive les hommes et les femmes, je crois à la mixité et au fait de vivre ensemble.
Mariée au premier regard reprend sur M6, c'est la saison 8, vous êtes l'une des experts du programme avec Gilbert Boujaoudé, 15 candidats cette année, 8 garçons, 7 filles. Alors pourquoi ce déséquilibre? Est-ce que deux hommes vont se partager une femme? Il y a un trouble? Non mais excusez-moi, moi j'ai...
Alors cette année, c'est le trouble.
Ça a été ma première question quand j'ai découvert ça.
Alors comme vous avez pu découvrir peut-être en avant-première sur les réseaux, il y a deux frères qui se sont inscrits et je ne peux pas vous en dire plus, il va falloir que vous regardiez les filles parce que...
On ne sait...
Ils se sont inscrits ensemble, Reste à savoir s'ils se sont mariés tous les deux, si l'un d'eux s'est marié pas l'autre, ou si aucun des deux n'a été
Ah, d'accord. Marié. Et c'est des jumeaux, non, c'est des...
Non, ils ne sont pas jumeaux, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils ont quand même pas mal d'années d'écart. Ils ne sont pas jumeaux.
D'accord. Bon, il y a un petit mystère encore qui plane.
Et alors, là, on en parle, mais ce serait envisageable du polyamour dans l'émission?
Ouais, c'est tendance,
c'est
en plus. Hein,
c'est de plus en plus tendance, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le polyamour, c'est la capacité d'aimer plein de gens. Moi, ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où on s'inscrit à marier au premier regard, c'est une expérience qui se base sur l'engagement. Si les personnes sont capables de s'engager avec une personne, oui, pourquoi pas.
Donc pourquoi pas du polyamour un jour dans Marié au premier regard?
Pourquoi pas? Savez, on marie des gens qui sont représentatifs de la population, de la société aujourd'hui. Ouais. Donc si la question se présente, évidemment qu'on l'étudiera.
Ça fait partie des nouvelles formes d'amour.
Absolument. Ouais, et on verra comment justement on peut l'adapter à l'expérience. Mais bien sûr, on ne rejette absolument personne.
Ah bon, ça c'est une info. Alors pour la première fois, il y aura un nom à la mairie de Gibraltar. Ça n'était pas arrivé depuis la première saison. Alors, ça vous a surpris, Estelle? Parce que vous êtes présente à chaque fois.
Oui, oui.
L'assistance.
Comment vous dire?
C'est la première fois que vous assistez à un nom en
plus. Oui, parce que le premier nom était à la première saison et
vous
je n'étais pas là encore. Donc effectivement, alors... Pour ne rien vous révéler de secret, s'y prépare toujours, non seulement en tant qu'expert, mais on prépare aussi nos participants, pour la simple et bonne raison qu'on ne les oblige à rien. Donc ils savent qu'ils peuvent dire oui, mais ils savent aussi qu'ils peuvent dire non, pour les raisons qui leur appartiennent. On n'est pas là pour forcer, on n'est pas là pour indiquer ce qu'ils doivent faire. Mais effectivement, il y a toujours un petit décalage son et lumière entre le moment où on se prépare à quelque chose et tout à coup ça arrive. Là, ça fait partie, vous voyez, je vous parlais des montagnes russes, c'est...
Donc, coup de théâtre.
On a été extrêmement surpris, et on a géré le problème immédiatement.
Et alors, c'est un classique de l'émission, les candidats se plaignent régulièrement du montage pendant la diffusion. Est-ce que vous les mettez en garde en amont? Comment est-ce que vous les préparez à ça?
Alors, c'est toujours compliqué, cette notion de montage. Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que il y a des heures et des heures et des heures de tournage. L'émission, quand elle est diffusée le lundi soir, elle doit durer en termes de diffusion 2 heures. Donc inutile de vous dire que la majorité de ce qui est filmé ne peut pas être monté. La production choisit, avec notre accord, de mettre en lumière les questions qui vont être les plus représentatives de leur histoire, afin que ça soit très intéressant et que ça soit aussi très concernant. Parce que c'est une expérience psychologique, mais qui est accessoirement télévisée. Donc si on peut concerner le maximum de gens, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus porteur. Donc je comprends tout à fait la frustration que les participants peuvent avoir d'avoir vécu des scènes, des moments précieux, jolis, et que ça ne soit pas montré, c'est dommage, mais parfois il faut aller à l'essentiel.
C'est pas un album de mariage.
Oui, exactement. Et moi, ça m'arrive aussi, hein. Attention.
Ah oui, vous me plaindre du montage, c'est vrai?
Non, pas de me plaindre du montage, mais il y a des moments hyper tendres que je peux vivre avec les mariés ou même leur famille, et puis je le vois pas après, c'est pas grave. Mais au début, je me disais, oh, c'est dommage.
Vous avez une petite frustration.
Mais bon, voilà, c'est pas grave.
Mais il faut noter quand même que les candidats l'année dernière se sont moins plaints. C'est vrai, il y a eu quasiment pas de critiques. Est-ce que la production fait un peu plus attention aussi dans le montage? Est-ce que vous avez eu vent de ça?
Non, parce que si elle devait faire plus attention, ça veut dire que par ailleurs, elle aurait, elle aurait eu des soucis ou elle aurait pas été d'accord avec son montage. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En revanche, peut-être que nous, en tant qu'experts, peut-être qu'on communique davantage et qu'on explique plus les choses en amont. Oui. On est peut-être plus pédagogique par rapport à cette histoire de montage et aussi par rapport à la gestion des réseaux sociaux.
Oui. Et alors, est-ce que vous gardez contact avec les anciens candidats avec lesquels
C'est marrant parce qu'on m'a posé la question récemment. Et oui, j'ai compté, je suis régulièrement en contact avec, depuis même la saison 3, il y en a qui me demandent encore des conseils.
Ah bon?
Et il y en a un qui m'a envoyé juste une photo de l'échographie de sa nouvelle compagne. Il y en a un autre qui m'a demandé ce que je pensais de sa petite amie pour... parce qu'il avait envie de se fiancer, et voilà, c'est des moments, mais j'étais, franchement, de vous le dire, je suis émue, parce que j'étais extrêmement touchée. C'est vraiment une expérience humaine, et de voir ces jeunes-là qui me font part de leur truc, je me suis hyper émue.
Bah ouais, non mais on comprend, et puis en plus, il y a quand même, on a compté, et alors il reste que deux couples encore ensemble, hein, issus de Marié au premier regard. Il y a Pauline et Damien, et Laure et Mathieu d'ailleurs, qui vont accueillir leur deuxième enfant. Et on a compté, il y a 6 bébés au total, hein, si on compte leur deuxième. C'est un bilan qui vous satisfait, Estelle ?
Évidemment, on ne peut pas ne pas se satisfaire de l'arrivée d'un enfant. Pour autant, les couples qui sont ensemble et qui n'ont pas d'enfants, c'est bien aussi la maternité, la parentalité n'est pas nécessairement l'aboutissement d'un couple. Ouais.
Et donc, comment vont d'ailleurs Laure et Mathieu ? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles ? Parce que
alors, ils vont très bien.
Le deuxième est en route.
Et c'est une petite fille.
C'est une petite fille.
Ils l'ont révélé sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore le prénom, mais même si je l'avais, je ne vous le dirais pas. Mais non, ils vont très bien. J'ai aussi des nouvelles.
Qui vous pouvez nous.
Ah, ben, de Pauline et Damien.
Alors, comment vont-ils, Pauline et Damien ?
Mais ils vont très, très bien.
Pouponnent.
Oui, oui, oui. Valentina va m'appeler Tata Estelle.
C'est vrai ?
Je ne suis pas peu fière. Je vous garantis une chose, c'est que je ne suis pas peu fière. Non, je suis hyper contente.
Vous allez être la marraine, peut-être.
Oh, ben, c'est une marraine symbolique. C'est une marraine symbolique. J'ai essayé de les forcer à. Mais bon, je ne vois pas trop quand même. Ouais. Ils ont une famille, des amis déjà. Ouais. Mais bon, marraine symbolique, ça me va.
Bon. Et vendredi, nous recevions sur ce plateau Marie Drucker. Et elle avait une question à vous poser, Estelle, donc je vous propose de regarder et d'ensuite d'y répondre.
Ma question pour vous, chère Estelle, que vous a appris depuis, je pense bien, 5 ou 6 ans au moins, cette expérience sur vous, sur les hommes et les femmes en général et sur le couple en particulier ?
Ah, ouais, ça c'est la pertinence de Marie Drucker, comme d'habitude, toujours précise, j'adore. Qu'est-ce que l'expérience m'a appris ? Ah, elle m'a appris, je ne sais même pas par où commencer tellement j'ai appris de choses. La première, c'est une grande leçon d'humilité. Parce que j'ai toujours été, j'adore mon métier, et j'ai toujours été extrêmement humble par rapport au fait que les gens me fassent confiance quand ils poussent la porte de mon cabinet alors qu'ils ne me connaissent pas. Là, c'était démultiplié avec une question extrêmement précise de rechercher l'amour. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des personnes qui sont vraiment en souffrance par rapport au fait qu'ils n'aient pas l'amour. Donc, accompagner ces jeunes gens, c'est vraiment quelque chose de très fort, parce que c'est une expérience au long cours qui leur fait, pour eux, une psychothérapie accélérée. Et donc, ça peut être par moments un peu douloureux, ça peut être vraiment chamboulant. Je ne sais pas si on dit vraiment ça.
Oui.
Mais voilà.
Oui.
Après, j'ai appris...
Sur le comportement des femmes, des hommes que...
Alors, évidemment, le comportement des femmes et des hommes. Ce qui était plus intéressant, c'était le coaching, c'est les accompagner avec des questions. Et l'intérêt du coaching par rapport à la psychothérapie, c'est qu'on est immédiatement dans l'action par rapport à un problème précis, ce qu'on pourrait appeler un peu le symptôme. Donc on a immédiatement, si vous voulez, une action et une réaction. Donc ça peut être certaines fois gratifiant, d'autres fois extrêmement frustrant. Et c'est une autre des leçons que j'ai apprises, c'est gérer ma propre frustration par rapport au fait que, bon, ben, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que même si ils font tous leurs meilleurs efforts pour s'en sortir, ben après, on n'est pas magicien. Donc ça leur appartient de faire les efforts nécessaires pour se sortir de leur situation et de réussir à construire le couple. Quand ça ne marche pas, c'est mon devoir en tant que psy, c'est un devoir déontologique aussi, de devoir les encourager à commencer une psychothérapie. Mmh. Et rien que ça, c'est une réussite. Mmh. Et puis encore, la dernière chose... je vous avais dit...
vous avez appris plein de choses.
Voilà, et la dernière chose que j'ai appris et que je continue de faire, c'est vulgariser la psychologie, la rendre accessible au plus grand nombre qui n'oserait pas pousser la porte d'un psy. Je tiens à rappeler que la psychothérapie, c'est pour tout le monde. Mmh. Ce n'est pas pour une élite, c'est pour tout le monde. Ça relève du soin, de la santé.
Et alors, il y a une récente étude qui a démontré que les jeunes faisaient moins l'amour que leurs aînés. Comment vous l'expliquez, Estelle ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'émergence des jeux vidéo, le porno, le stress au boulot
Alors,
c'est un mélange de tout ça ?
Évidemment, j'ai lu cette étude. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que je ne connais pas la source et je ne connais pas le panel sur lequel ils ont réalisé cette étude. Mmh. Donc, c'est très difficile de se prononcer. Mmh. Pour autant, de manière empirique, je pense que les jeunes gens ont des rapports sexuels qui sont différents. Et ça dépend des catégories qu'on interroge. Les jeunes entre 18 et 25 ans, ils vont être plutôt dans la découverte de leur sexualité, je pense qu'ils se mettent moins à la pression. Mm-hmm. Donc, les rapports sexuels ne sont pas tout à fait les mêmes. Les filles disent plus facilement non aussi, alors qu'avant, ce n'était pas si facile.
Oui, c'est vrai. Oui.
Et puis, Il y a effectivement la pornographie. Je pense que dans l'étude, ce qui ressort, qui m'a le plus intéressée, c'est plutôt l'apport et le problème de la pornographie. Ouais. L'hyperconsommation, l'hyperaccessibilité à la pornographie détériore et dénature la première rencontre et surtout le premier rapport sexuel. Mmh. J'ai des jeunes patients qui, lors de leur premier rapport sexuel avec une jeune fille de leur âge, s'étonnent qu'elle n'ait pas des seins en plastique, un sexe entièrement épilé, des ongles comme ça. Enfin, donc ils sont assez déstabilisés par la réalité. Et ça, c'est dommage, mais c'est pas nouveau. Hein. La pornographie, ça existe depuis très longtemps. Bien c'est sûr. L'accessibilité à la pornographie au plus grand nombre qui pose problème.
Mm. Et alors, quel conseil vous donnez aux couples qui viennent vous voir pour entretenir la flamme, justement ?
Dans mon cabinet ou dans l'expérience ?
Dans votre cabinet.
Ben, entretenir la flamme, c'est quelque chose qui se fait à deux. La première chose à faire, c'est sortir de la passivité. Mm. Il ne faut pas imaginer que le couple va être comme au premier jour. Ça n'existe pas. Mmh. Que vous vous rencontriez à 20 ans
la passion,
ou à 40...
C'est obligé.
Voilà exactement. Mmh. À 20 ans ou à 40, le couple ne sera pas le même 5 ans plus tard. Sauf qu'à 20 ans, effectivement, la sexualité, c'est à tout va. Oui. À 40, c'est un peu plus posé. N'empêche que ce sera toujours un peu différent. Il faut être un peu sur ses gardes. Il ne faut pas être trop attentiste parce que c'est là que les problèmes arrivent. Mmh. Et quand on commence à dire... Ah oui, mais elle ne me séduit pas, elle ne cherche pas à m'exciter, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Moi, systématiquement, je demande, mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour exciter madame ? Vous voyez, il faut se remettre en question, faire amende honorable, faire l'évaluation de ses propres capacités, aussi de ses envies, parce qu'au sein d'un couple, les fantasmes, les désirs peuvent évoluer. Mmh. Et puis, en parler. Bah, en parler, sûr, pas juste dire j'ai besoin de ça, mais qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse, vous voyez.
Alors on va vous proposer un petit jeu de questions-réponses rapides. Estelle, c'est sûrement peut-être des questions qui reviennent souvent dans votre cabinet.
Mais non Sarah.
Allez, je me lance. Les pires phrases de rupture à éviter selon vous? Il y en a, pour moi il y en a qui sont interdites.
Ah mais je ne saurais même pas par où commencer, comment vous dire.
Allez, une qu'on interdit. Je ne vais pas vous la souffler.
La pire, c'est je préférais qu'on reste amis.
Ah oui.
Ou alors, c'est pas toi, c'est moi.
Ça,
c'est
bien pourri
quand même. C'est pas toi, c'est moi, c'est quand même bien pourri.
Non, mais ça, oui, il faut le dire.
Et alors, doit-on garder contact avec ses ex-compagnons ?
Alors, non, mais ça, c'est une bonne question. Je ne sais jamais trop quoi répondre. En fait, la question, c'est pas tellement si on doit rester en contact avec son ex ou pas. La question, c'est comment... l'apprendre, comment en parler avec la nouvelle personne avec qui on est. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rester en contact avec votre ex, pourquoi pas ? Si vous avez la capacité à développer des rapports amicaux après avoir été amoureux, ok, ça appartient à chacun. Mais quand on est en couple, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à négocier et je pense qu'il faut faire preuve d'empathie et se poser tout simplement la question... Mais moi, dans cette situation, est-ce que j'aimerais que mon conjoint soit toujours en contact avec son ex ? Et à partir de là, agir. Mais le mieux, c'est quand même d'en parler simplement pour éviter que ce soit un problème. Parce que parfois, on évite d'en parler. Pas que ce soit un problème. Et c'est comme ça qu'il y en a un. Bon, tu vois ton ex, mais tu ne me l'as jamais dit, mais pourquoi ?
C'est sûr. Blair et Chuck, couple toxique ? Alors, faut préciser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un couple mythique de la série Gossip Girl. Et vous l'avez analysé
chez Dr. Good.
La vidéo est très drôle sur votre compte Instagram.
Oui. Alors, c'est intéressant parce que il faut un peu décorréler le côté romantique, fougueux du personnage de Chuck de la réalité. Un personnage comme Chuck dans la réalité est très toxique, avec sa capacité à imposer notamment ses désirs sexuels. Là, on est quand même borderline sur un truc un peu compliqué.
Oui.
Pour l'avoir regardé, il y avait quand même quelque chose parce que comme c'est une fiction, la personne, quand on regarde une fiction, on a conscience de regarder une fiction. Donc, notre cerveau met, d'un point de vue cognitif, systématiquement un lien qui met les choses à distance et qui permet de relativiser. Donc, la série est sexy, ça donne des rapports très fougueux, quelque chose de très animal, qui est très excitant, parce que ça appartient à une série. Dans la réalité, moi, une patiente me dit « Il m'a obligée à avoir un rapport sexuel où il vient de se taper ma meilleure amie », je vais lui dire « Attendez, red flag ».
Non, red flag, oui, complètement.
Là, voilà.
Carrément.
Et croyez-vous au concept de l'âme sœur, pour finir ?
Ah, je vais vous faire une réponse un peu... Oui et non. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont la chance de rencontrer effectivement quelqu'un qui leur correspond parfaitement et qui vont évoluer dans le même sens, dans la même direction au cours de leur vie. Ça arrive, mais honnêtement, c'est très rare. Et puis, il y en a d'autres qui vont... je pense qu'on peut en avoir plusieurs au cours de sa vie. Pour la simple et bonne raison qu'on évolue. On n'est pas la même personne à 20 ans qu'à 30, qu'à 40, qu'à 70. Si vous avez les mêmes attentes à 70 qu'à 20, tant mieux. Mais il y a peu de chance. Donc, vous pouvez avoir des envies différentes à 60 ans et avoir envie de refaire votre vie avec quelqu'un qui, que vous n'auriez pas pu supporter à 20.
Et vous, vous l'avez trouvé, votre âme sœur?
Ah oui.
Vous l'avez, oui, depuis... Est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que vous, psychologue, thérapeute...
Non, moi, j'ai trouvé... formidable, je suis très très heureuse, j'ai beaucoup de chance.
Donc vous l'avez, votre âme sœur. Merci Estelle Dossin.